Aujourd'hui, la masterclass de Jean-Marc Rochette avec Antoine Guillot.
Bienvenue à cette masterclass avec Jean-Marc Rochette, enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance Française. Je vais commencer par un petit poème. Parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète, roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transperce-neige aux mille et un wagons. C'est le dernier bastion de la civilisation. C'est par ces quelques vers devenus un véritable mantra pour ses adeptes que s'ouvrait en 1982 dans les pages d'un fameux mensuel de bande dessinée à suivre une série mythique, post-apocalyptique et désenchantée qui est devenue depuis un phénomène mondial grâce à son adaptation au cinéma par un cinéaste tout à fait génial, le coréen Bong Joon-ho. C'est Le Transperce-neige, imaginé par Jacques Loeb et mis en image par Jean-Marc Rochette. Alors le film l'a relancé, cette série, et depuis le train infernal et glacé a poursuivi sa route jusqu'à aujourd'hui avec d'autres copilotes après le décès de Jacques Loeb, des copilotes comme Benjamin Legrand et Olivier Bocquet et d'autres dont on va parler tout à l'heure, mais toujours un seul homme à la mise en scène, Jean-Marc Rochette. Mais avant même de partir sur ses rails, notre homme était déjà quelqu'un qui s'était fait un nom avec une créature tout aussi culte, imaginée avec Martin Véron. C'était un cochon. Il s'appelait Edmond, de son prénom, icône punk, lâche, cynique, vulgaire et prêt à tout pour ne pas finir en saucisson, là je vous cite, qui infiltrait l'esprit de la contre-culture américaine à la Robert Crumb dans la France giscardienne crépusculaire. Edmond le cochon, connu même d'ailleurs pour l'anecdote, une édition pirate au Chili à l'époque sous la dictature de Pinochet. Et puis les animaux, cochons ou pas, ça le connaît, Jean-Marc Rochette, lui qui n'a pas attendu le dérèglement climatique pour être écologiste, le grenoblois que vous êtes, était de toutes les manifestations contre la centrale de Creys-Malville dans les années 70. Et puis, vous avez trouvé aussi une solution radicale et délirante, mais assez logique finalement, à la disparition des bêtes. C'était avec Fred Bernard dans Himalaya Vaudou. Il suffit évidemment de transformer les hommes en animaux. C'est beaucoup plus simple. Et puis, il faut dire aussi que des drôles d'oiseaux, vous en avez dessiné, des Napoléon et Bonaparte et leurs aventures psychotiques, des Louis et Dico qui ont envahi Londres, New York et Hollywood. C'était avec René Pétillon en copilote, là, pour le coup. Et puis, vous avez aussi tourné en dérision la cour du roi Soleil. Vous avez illustré très sérieusement le Candide de Voltaire et l'Odyssée d'Homère. Vous êtes aussi un homme de perpétuelle remise en question. Vous êtes arrêté parfois, tout bonnement dessiné, c'était par deux fois. Vous êtes consacré à ce moment-là pendant de longues années à la peinture. Mais la vraie vérité de Jean-Marc Rochette, et peu le savez, en dehors du milieu de la bande dessinée, jusqu'à ce que vous fassiez votre coming out tardif, c'était en 2018, avec un vraiment magnifique récit autobiographique et initiatique, et qui est devenu un grand succès de librairie, Aile froide, altitude 3954, où le portrait de l'artiste en jeune alpiniste. La vérité, donc la voici, Jean-Marc Rochette est avant tout un grimpeur, l'homme qui a arpenté dans tous les sens l'horizontalité d'un train au milieu d'un wagon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait n'aime rien tant qu'atteindre les sommets après en avoir sérieusement bavé sur des parois abruptes. Alors pour nous emmener avec lui sur les cimes de sa pratique artistique, nous ne serons pas totalement sans piolet ni crampons. Nous nous appuierons en particulier sur ce livre, Aile froide, mais aussi sur vos deux dernières parutions, Transperce-neige Extinction, avec la collaboration cette fois-ci de Mats au scénario, un livre très actuel puisqu'il raconte les circonstances dans lesquelles notre humanité va s'éteindre et dans lesquelles la Terre va devenir cet enfer glacé où évolue le train mythique. Et puis Le Loup, une première œuvre en solo, comme on dit, d'une ascension en solitaire, qui raconte une confrontation vraiment époustouflante, à couper le souffle littéralement, entre un berger et un loup. C'est dans le parc des Écrins que vous connaissez bien. Et puis ce personnage, vous le connaissez bien puisqu'il a vautré, il a vraiment la tête de Jean-Marc Rochette, pour ceux qui le voient aujourd'hui au Théâtre de l'Alliance Française. Mais en fait, vous pourriez tout aussi bien être le second, Le Loup. On a l'impression que vous êtes vraiment dans les deux personnages. Et puis, le livre étant une ode à la cohabitation entre les espèces, ça fait sens, on vous l'a dit. L'homme aime les bêtes. D'ailleurs, c'est assez troublant quand on voit que votre roman graphique autobiographique, donc Aile froide, commence précisément par un animal. Mais un animal en fort mauvaise posture, c'est un bœuf, il est écorché. Mais c'est déjà une représentation, c'est le bœuf écorché de Soutine qui est au musée de Grenoble, pour ceux qui connaissent ce beau musée. Puis devant, il y a un enfant, c'est vous. Et tout vient de là. Est-ce qu'il y a eu une vocation qui serait née de la contemplation de ce bœuf écorché de Soutine, Jean-Marc Rochette?
Enfin, en tout cas, ce tableau de Soutine, c'est le tableau iconique que j'avais dans mon enfance. Mais alors, comment c'est arrivé? Je ne sais pas du tout, parce que j'ai dû aller dans ce musée et puis j'ai dû tomber sur cette peinture qui est quand même relativement facile à comprendre, puisqu'elle est quand même spectaculaire, elle est grande, c'est de la viande. Et puis il y a un dessin un peu enfantin chez Soutine qui m'a parlé. Si j'avais vu le celui de Rembrandt, je pense que j'aurais été tétanisé d'admiration, alors qu'avec Soutine on sent que c'est possible. Donc c'est peut-être ce rapport à une enfance troublée, je ne sais pas. En tout cas, c'est une chose que j'ai regardé beaucoup et puis je voulais faire ça en fait. Je voulais être Soutine quand j'étais petit.
Tout simplement. Voilà. Alors, vous êtes devenu Jean-Marc Rochette, ce qui est pas mal non plus, mais vous aviez donc dès l'enfance l'idée que vous pourriez vivre de vos dessins, de la peinture. Vous imaginez plutôt peintre alors peut-être à ce moment-là?
Je voulais être peintre, oui, mais j'ai vite compris, après les délires enfantins, j'ai vite compris que je pourrais pas en vivre, puisque on était au début des années 70, et à Grenoble, la peinture, on n'en vivait pas du tout, ou alors c'est une peinture pour les dentistes, qui m'intéressait pas beaucoup. Et puis c'était le début de la bande dessinée française, underground, et c'est comme ça que je me rappelle avoir lu, j'allais dans une compétition de ski, à la gare de Grenoble, j'ai acheté Actuel, le tout premier Actuel. Et dans ce journal qui était fait par Bizot, il y avait du Corben, il y avait le premier épisode de Rolf, il y avait du Crumb, et il y avait un dessinateur qui s'appelait Francis Mas, voilà. Et j'étais époustouflé par la
liberté. Qui était de Grenoble aussi, Francis Mas.
Oui, qui était de Grenoble. J'étais époustouflé par la liberté de ce que je voyais, quoi. C'était révolutionnaire pour moi, et j'ai pensé que j'allais faire ça. Et pour l'anecdote, j'en ai parlé à une personne, et j'étais persuadé que Francis Mas était du Kansas, comme Corben, et il me dit, oh ben non, il est de la place, il est du quartier Saint-Laurent, à Grenoble. Et donc, j'ai été voir ce Francis Mas, et c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma carrière. Voilà.
Alors, ceux qui ont lu Elle froide le savent, vous avez quand même hésité longtemps entre deux carrières possibles, celle de devenir un alpiniste professionnel, un guide de haute montagne, ou celle de devenir dessinateur. Il y a eu cet accident que vous racontez, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment là que ça s'est joué, ou est-ce que vous ne vous dites pas que finalement c'était quand même dessinateur qui était votre vocation profonde?
Au départ, j'étais clairement un dessinateur, mais à un moment, j'ai vraiment cru que j'allais faire de l'alpinisme. Donc, je me suis vraiment entraîné d'une manière quasi professionnelle, et j'avais des ambitions. Et malheureusement, la personne avec qui je grimpais, Zartarian, qui à mon avis aurait pu avoir une immense carrière d'alpiniste, est mort à 17 ans. Et puis après, moi, j'ai eu un accident. Et là, et alors, c'est curieux parce que j'avais un niveau assez faible quand même en dessin quand je regarde mon travail a posteriori. Et après cet accident, en quelques mois, j'ai fait des progrès assez importants, au point d'être publié à l'Écho des Savanes, de créer Le Monde Cochon. C'est là que j'ai créé Le Monde Cochon et j'ai commencé à vivre de ce métier, quoi.
Vous racontez là encore dans Elle froide comment le figuratif était très décrié à l'époque, dans les années 70, et même pas dans les écoles d'art. Dès le lycée, les professeurs vous disaient, mais ne faites pas ces dessins, c'est fini, faites du Mondrian. Alors vous, ça vous plaît pas trop, mais finalement, vous avez passé votre vie à remplir des cases. C'est une sorte de malédiction. Mondrian, comment ça vous a pas frappé? Moi, ça m'a frappé tout de suite quand j'ai lu votre livre.
Ben, j'y pense chaque fois que je commence une bande dessinée. Effectivement, je mets des cases. Je me dis, bon, bah lui, il s'arrêterait là, moi, je vais peut-être un petit peu continuer, quoi.
Ouais. Mais vous êtes peintre aussi, donc je l'ai dit, vous vous êtes arrêté régulièrement pour peindre, puis vous continuez ça en parallèle. Et là, pour le coup, vous ne faites pas vraiment du figuratif. Ce sont des peintures très abstraites, même si on peut y voir peut-être des paysages de montagne, se dire que ça vient de là. Mais quand vous faites de la peinture, c'est de la peinture.
Ah oui, je suis, disons, je me mets clairement dans les traces du paysage dauphinois, où on a eu des grands peintres comme Achard et l'Abbé Guétal, et je dessine tout le temps les paysages de mes montagnes, mais je les vois pas de la même manière, je les vois d'une manière plus fluide, on dirait, où j'essaye de pas me placer sur une topologie photographique, et donc je regarde le monde avec plus de... Je vois les vagues, quoi. Mais pour moi, c'est assez réaliste, finalement. Les gens, ils voient pas, mais pour moi, c'est assez réaliste, quoi. Voilà. Je bloque pas la nature à un moment T, quoi. je me déplace. Voilà. Et donc, bon, ben là, j'ai un peu arrêté de faire des grands tableaux parce que ça m'avait fait mal au poumon, parce que ouais, parce qu'il y a beaucoup de colle et tout ça, c'est très néfaste. Et comme je dormais au milieu de mes donc j'ai arrêté quoi.
Mais cette alternance entre la bande dessinée et la peinture, c'était pour quelle raison profondément? C'est parce qu'il y a un moment la bande dessinée n'a pas marché et vous êtes dit bon ben je vais aller vers la peinture, ou c'est aussi pour éviter ce qui frappe, ce que beaucoup d'auteurs de bande dessinée racontent, qui est un peu la sclérose du travail de la bande dessinée? Alors c'est pas trop votre cas pour vous puisque vous faites le transpersonnage, mais vous avez aussi d'autres livres, mais ceux qui dessinent le même personnage indéfiniment pendant des années et des années souffrent parfois de ça.
Bah, j'ai eu la chance que la bande dessinée marchait pas très bien pour moi. Donc ça m'a permis d'être libre. Je me contentais de peu et donc j'étais libre. Donc je pouvais faire de la peinture. Je pense que si Edmond avait marché, maintenant je serais au Edmond 32 et voilà quoi. Je serais complètement déprimé et ça m'a permis de faire des expériences. Et donc effectivement j'avais besoin. De temps en temps c'est sclérosant effectivement la bande dessinée quand on a fait 180 pages. Et on est obligé de représenter des scènes où des gens sont dans une cuisine en train de manger, des choses comme ça, et d'essayer d'être totalement sur la chose pour par rapport au respect pour le lecteur. C'est vrai que ça fait du bien de sortir à l'extérieur et de peindre. Puis en plus, on apprend des choses. Je pense que d'aller d'un médium à l'autre, moi, ça m'apporte beaucoup, quoi. Si on fait pas de la peinture en agrandissant ses propres cases.
On a parlé de la peinture, comment ça avait pu vous influencer. Est-ce que vous sentez en dialogue avec d'autres formes d'art? Est-ce que la littérature peut vous influencer? Est-ce que ça serait le cinéma? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est la musique, pardon?
Non, la musique, j'ai absolument aucune oreille. C'est même dramatique. Non, la littérature, oui, bien sûr. Quand je lis La Route de McCarthy, par exemple, c'est très inspirant. Enfin, tout McCarthy en général. Et là, j'aime bien la poésie aussi. Cinéma, bien que le cinéma ça soit très proche de la bande dessinée quand même, c'est deux arts qui sont très proches. Mais non, la littérature plutôt, parce que je trouve comme vous avez vu, je me suis mis à écrire tout seul et j'ai vu qu'on pouvait s'amuser à écrire dans une bande dessinée.
Là pour le coup, puisque vous parlez du Loup, hein, ce livre que vous avez écrit tout seul, on a quand même le sentiment que c'est un livre de dessinateur. Avant d'être un livre d'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a une logique du dessin, de la progression. Alors comme c'est un homme qui piste un loup, ou parfois un loup qui piste un homme, ou un qui suit les brebis, etc. Enfin, il y a une progression graphique, et on a l'impression que c'est ça qui induit le récit.
Bah, ce qui a induit le récit, je sais pas trop. En fait, ça a commencé avec mon voisin de derrière, qui est un berger, et qui m'a dit qu'il avait une attaque de loup, et il m'a décrit par le menu ce que c'est qu'une attaque de loup. Donc c'est cette espèce de vision dantesque qui m'a inspiré, quoi. Et donc, je suis parti de là, je me dis, tiens, c'est incroyable ce qu'il me raconte. Donc, j'ai commencé à raconter cette histoire. Et puis, petit à petit, la trajectoire a été imposée par le lieu même. Puisque ce loup, il suit une trajectoire que je connais. C'est une trajectoire géographique qui est en dessous de chez moi. C'est-à-dire que je sais particulièrement où il passe. Il passe devant ma maison, il remonte dans la vallée, il passe un col. Et en fait, je me suis mis à le suivre. Et à le suivre, ces deux personnages qui se poursuivaient, qui montaient et qui allaient. Ils vont dans un lieu que je connais, qui est le vieux refuge de la Pilate, etc. Donc en fait, je ne sais pas si c'est un truc de dessinateur ou si c'est un livre de pisteur, quoi, plutôt. De gens qui pistent. Je me suis mis à la place du personnage, quoi.
Il n'y avait pas aussi une envie presque égoïste de représenter justement ces lieux qui sont importants pour vous, devant lesquels vous repassez régulièrement, et où l'histoire, cette histoire de loup, par exemple, pourrait être un simple prétexte pour le bonheur que vous avez de représenter des lieux que vous aimez.
Absolument. Alors ça, l'histoire est le vecteur de représenter mes montagnes, de représenter les rapports de les ombres qu'on voit le printemps dans ces choses. Ça, c'est bon. Si je raconte que ça, bon, j'ai peur que mon public ça serait un saut vraiment. Mais en mettant cette histoire de loup qui m'a intéressé, parce que je me suis quand même un petit peu inspiré de des Lucas ou de Hemingway, il y a un peu du poids du papillon ou du vieil homme et la mer. Et c'est vrai que c'est facile à suivre et puis on peut montrer des paysages. Bon, j'espère avoir un lectorat populaire, donc j'espère lui raconter une histoire la plus prenante possible, quoi. Et
En général, c'est comme ça que viennent les idées de départ pour vos livres. Alors, ça peut être pour une suite du Transpersonnage, par exemple. Je crois que c'est Olivier Bocquet, votre co-scénariste sur Transpersonnage Terminus, qui disait ça. Jean-Marc Rochette, il vient nous voir avec des idées d'images. Il nous dit, tiens, j'ai vu une image de descente en varap dans une cage d'ascenseur. J'ai vu, je sais pas, des enfants déformés. J'ai vu des choses comme ça. Et puis après, vous apportez ça à un scénariste pour qu'il en fasse histoire. Mais d'où elles viennent ces images? Comment est-ce que ça arrive?
Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment... Et en plus, quand je discute avec un scénariste, souvent, autour de la table, l'image, elle arrive tout de suite. Là, par exemple, l'histoire de l'orque, à la fin, je voyais un orque avec du sang sur la banquise, des gens qui faisaient la fête autour de l'espèce de joie dionysiaque païenne. Et après, évidemment, ça fait une belle fin, parce qu'on a une belle image, quoi. Là, c'est curieux, parce qu'on est en train de travailler sur le tome 2 avec Mats. Et il me parle de... Quand on discute avec un scénariste, on lance des idées. Donc, il parlait des dômes, vous voyez, les fameux dômes où les gens vivent sous des dômes après une fin du monde quelconque. Et d'un seul coup, j'ai pas vu. Mais j'ai dit, c'est pas un dôme qu'il faut, c'est une caldeira. Vous savez, ces espèces de trous dans la jungle où les gens, où il y a des gens qui font du parachute et tout. C'est une vision. Et d'un seul coup, hop, c'est vrai que c'était plus intéressant qu'un dôme. Mais d'où ça vient, ça, je sais pas. Je dois vraiment avoir le... marcher à l'image, quoi.
Ces images, elles sont très claires dans votre tête, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à la dessiner, ou c'est en la dessinant qu'elles se précisent.
C'est un peu comme c'est marrant parce que les écrivains, ils parlent toujours du côté quand tu tires sur une pelote de naine, tout vient et c'est plutôt avec une idée. Et moi, c'est une image, on amène une autre, quoi. Et il y a une espèce de logique. Dans le processus imagaire ou imaginaire, je sais pas. Oui, enfin, l'imagination, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, ça, c'est à partir de l'image. Et donc, j'ai vu le loup qui marchait avec des tripes dans la bouche, quoi. Et d'un seul coup, j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Ben, donc, je veux pas spoiler, mais c'est pratiquement toute l'histoire tient là-dessus dans le loup. Si on enlève cette scène, il n'y a plus rien, quoi.
Comment est-ce qu'on dessine un loup? Est-ce que là, c'est un peu la question, c'est quel travail vous devez faire de documentation? Ah ben, est-ce que vous allez chercher un vrai loup? Vous allez dans un zoo regarder un loup? C'est un loup que vous avez tellement intégré après que vous pouvez l'animer dans toutes ses dimensions?
Ouais, ben le loup, il y a des images de loups partout, donc on le regarde et on fait des croquis, quoi, jusqu'à ce qu'on ait à peu près compris comment fonctionne le corps du loup. Mais il y a des images qu'on... La recherche documentaire, c'est aussi une forme d'art, je trouve. Parce que je voulais avoir un moment le loup de face, très près, quoi. Et donc, je cherchais cette image. Et en fait, j'ai fini par la trouver. C'était un loup qui a regardé une caméra thermique et qui a posé son nez sur la caméra thermique. Donc, quand je suis tombé sur cette image du loup, je me suis dit, je l'ai, quoi.
Vous êtes dans la bande dessinée depuis suffisamment longtemps pour avoir vécu la révolution de la documentation, parce qu'il y a une époque où il ne suffisait pas de taper sur son ordinateur loup proche caméra pour trouver ce que vous vouliez. Comment est-ce que vous faisiez avant?
Bah, il y avait des écoles. Il y avait comment Gilon, par exemple. Gilon, paraît-il, moi je suis jamais chez lui, mais je crois qu'il avait une pièce de 100 mètres carrés avec des Paris Match. Donc c'était un travail de documentaliste qu'il faisait et il collectionnait les loups, les castors, je sais pas quoi moi. Il faisait tout ce qu'il avait besoin, quoi. Et donc dès qu'il avait besoin de choses, il allait piocher, quoi. Et donc nous, ben on allait à l'époque, on allait chercher des livres. Hein, on allait peu importe le nom, et on allait chercher des livres sur les. Bon, moi, en plus, à l'époque, je faisais plutôt dans le comique, donc c'était plutôt de l'imaginaire pur. Hein. Et j'ai commencé à regarder ça avec quand Jacques Lob m'a demandé de faire le transpersonnage. Bah, j'ai commencé. Il a fallu aller chercher des trains, quoi. Donc, je me rappelle, il m'amenait, lui, il était très très impressionné par les doubles trains blindés russes. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu toute une collection de double trains blindés, enfin double locomotive blindée. Et donc j'ai alors là commencé à collectionner toutes les images. Il m'amenait des livres en pagaille sur le Pullman, sur sur l'intérieur, l'extérieur et tout. C'est vrai que c'était plus long à... Bon, en fait, c'est le même principe que sur Internet, sauf que c'est plus long, quoi.
Il y a une évolution de ce train, d'ailleurs, parce qu'on imagine que quand vous le dessinez maintenant, c'est vous avez certainement plus besoin de cette documentation-là, parce que le train... Le transpersonnage de Jacques Loeb, on était vraiment quasiment dans des wagons SNCF avec les contrôleurs à moustache, etc. Et maintenant, c'est un train presque beaucoup plus futuriste et en tout cas de ce fait beaucoup plus imaginaire. Est-ce que quand on est dans la pure science-fiction, là, il n'y a plus de documentation nécessaire, on est juste dans l'imaginaire ?
Oui, enfin, surtout, mais moi, je ne veux pas trop faire de la science-fiction science-fictionnesque, je ne sais pas comment on peut dire. Ça se démode vite, alors que j'essaye d'être assez proche de maintenant, quoi. Et puis bon, sur le transpersonnage, le préquel à Extinction, j'ai eu un problème, c'est que comme je veux quand même qu'on puisse cicatriser le préquel avec l'histoire de Loeb, je suis obligé de faire un train qui ressemble au vieux train de Loeb. Donc, sans être totalement celui-là, mais un peu quand même. Donc, je joue avec le frein et l'embrayage sans arrêt pour essayer de pas m'éloigner trop du transpersonnage d'origine, quoi.
La bande dessinée, c'est évidemment pas seulement du dessin pur, c'est surtout de la mise en scène. Cette structure-là, comment est-ce que vous la trouvez ? Est-ce que vous attendez de vos scénaristes, je ne crois pas que ce soit le cas, mais certains scénaristes le font, de faire un scénario extrêmement découpé, déjà avec toutes les indications de mise en scène, où il n'y a plus qu'à dessiner, ou est-ce que pour vous, vous attendez plus une structure où vous allez être, pour le coup, le metteur en scène ?
Souvent, je travaille avec Olivier Bocquet, on travaillait côte à côte. Hein, donc, il écrit et moi, je dessine. Donc là, on est dans une relation metteur en scène, scénariste. Grosso modo, je prends beaucoup de liberté sur ce qu'on m'apporte. Hein. Donc, par exemple, dans le dernier avec Mats, il y a des scènes à la fin, c'est assez apocalypse, il y a les centrales nucléaires qui explosent. Et il me disait de faire une case où on voyait New York vide. Mais alors, par exemple, New York vide, c'est une idée qui est intéressante au cinéma, mais qui est complètement faible en bande dessinée. Premièrement, parce qu'on l'a déjà vu très souvent, et puis on peut se dire que c'est New York à 4h du matin. Et donc, j'ai carrément enlevé ça, et j'ai fait une succession d'explosions nucléaires qui me font une belle page. Je me fais le plaisir aussi de penser esthétique de la page, qui prendra le dessus sur éventuellement des idées narratives. Je pense remplaçable. Donc, je suis quand même beaucoup de liberté sur le scénario. Et puis, la rythmique. De toute façon, une bande dessinée, c'est le storyboard. Une fois que le storyboard est fait, la bande dessinée est presque finie. Après, c'est de l'exécution. Donc, la seule intérêt, ça sera le jeu des acteurs pour moi. C'est-à-dire qu'ils jouent bien, qu'ils se positionnent bien, qu'on y croit. Mais toute la narration est faite. C'est pour ça que moi, j'aime faire le storyboard en entier, mais après, je sais que je vais avoir un long, long passage d'ennui, quand même, parce que l'histoire, elle est faite dans ma tête, quoi. Et alors après, pour moi, c'est le jeu des acteurs. Voilà. C'est que ça joue le mieux possible. Voilà. Direction d'acteur, quoi. C'est ça, quoi.
Cette direction d'acteur, vous la trouvez il y a beaucoup de recherches, vous faites beaucoup de croquis à côté, vous faites beaucoup de crayonnés, ou vous y allez, certains dessinateurs, ils vont directement, parce qu'ils se disent, pour contrecarrer l'ennui, justement, de ne pas repasser sur le trait de crayon à l'encre, comme ça se faisait traditionnellement, vous travaillez comment?
Non, non,
moi, Jean-Marc Rochette.
Non, je fais des crayonnés... pas trop poussé, hein, il faut laisser la liberté à l'ancrage, mais par contre les compositions sont nettes. Non, je joue moi-même, un peu comme faisait Hergé qui jouait devant Bob Demour, ou Jacob qui avait des glaces, vous connaissez, on voit des glaces partout. En fait, on est quand même assez on est assez acteurs les joueurs.
Les dessinateurs, ouais, sont des joueurs. Oui,
ouais, on est assez acteurs parce que, et le seul truc d'un dessinateur, c'est qu'il faut qu'il joue une femme, qu'il joue un enfant, qu'il joue un chien, qu'il joue beaucoup de. C'est la grosse difficulté de ce métier, en fait, c'est de pouvoir être à peu près dans toutes les écorces, quoi. Et notamment les femmes, c'est difficile de dessiner une femme. Bien, alors il faut avoir des modèles, et quand on n'a pas de modèles, et ben on invente, mais il faut pas tomber sur le cliché aussi. Il y a beaucoup de femmes dans les bandes dessinées qui sont très clichés, quoi. Donc ça, c'est moi je trouve que c'est plus intéressant à partir de ce moment-là, c'est que ça joue bien, quoi. On se dit ouais, c'est crédible, elle bouge bien, elle se pose bien, quoi.
ce qui est intéressant aussi avec vous, Jean-Marc Rochette, c'est que vous avez un style sans en avoir un. C'est-à-dire que vous avez, ça peut être très différent d'un livre à l'autre. Comment est-ce que vous choisissez? Comment va être le trait? Comment est-ce qu'il va être plus tranchant? Est-ce qu'il va être plus rond? C'est pas, il me semble que c'est pas uniquement la différence entre une bande dessinée humoristique où le trait sera plus caricatural et une bande dessinée plus réaliste. Vous n'avez pas le même trait, par exemple, pour parler de ces deux livres, il me semble, entre Le Loup et Transpersonnage Extinction. Et là, il y a des choix formels qui se font avant même l'exécution, j'imagine.
Oui, alors par exemple sur le Transpersonnage, c'est une bande dessinée qui oscille entre l'expressionnisme allemand et le comics américain. C'est, on peut y voir du Autodix et puis on peut y voir du Corben et du Todd. Donc déjà j'ai mes espèces de repères là-dedans parce que c'est ce que j'ai envie de montrer dans le Transpersonnage. Mais entre le Terminus par exemple qui tire plus vers l'expressionnisme allemand et Extinction qui lui est plus vers le comics américain, c'est aussi une décision de ma part. J'ai envie de que cette bande dessinée Extinction soit plus grand public, soit plus lisible facilement. Peut-être par rapport à l'histoire, c'est que je trouve qu'elle est plus lisible et plus grand public que Terminus, qui était une histoire plus dure et qui méritait un dessin plus dur. Pour l'histoire du loup, j'ai voulu faire, en fait, j'ai voulu que le dessin soit assez distant, un peu. Je voulais faire du Giono un peu. Je voulais pas que mon dessin soit trop devant, en première ligne. Il y a peu de gros plans. Enfin, il y a la scène ici. Il y a des scènes assez. Dans la scène du refuge, on peut y voir du Kate Kollwitz, par exemple. Parce que comme j'ai habitué en Allemagne, j'avais beaucoup vu de gravures de Kate Kollwitz. Et là, on peut voir ça un peu. Mais non, ça va avec mes envies, en fait. Je me pose pas trop la question, en fait. Mais en fait, c'est vrai que les deux, c'est pas la même chose. On va dire que le premier, c'est du Giono, et le deuxième, c'est clairement, on veut faire une série américaine à la Netflix. C'est ça, quoi. Je veux embarquer le public dans une histoire édifiante.
Est-ce que parfois vous recherchez l'accident dans le dessin? Parce que là, vous me parlez de quelque chose qui est très contrôlé, très pensé, très recherché. Est-ce que vous avez ce plaisir parfois du dessin pur qui peut naître de l'accident?
Bah, tout le temps chez moi, je crois. J'ai aucune certitude dans mon dessin. Donc, comme j'ai pas fait d'école de dessin, à chaque fois que je commence un dessin, j'ai l'impression que j'ai 16 ans et demi, que je sais rien faire du tout et que je vais être la risée de toute la profession. Donc, je n'ai aucune certitude et après, je suis comme un noyé. Quand je dessine, je suis comme un noyé, en fait. J'ai l'impression que je vais pas passer la journée. Et puis, finalement, je survis. Donc, c'est quand même que de l'accident chez moi. Hein. Comme j'ai un ancrage assez rapide et assez violent, je peux pas trop le contrôler, quoi. Je suis pas quelqu'un qui contrôle les effets, quoi. Et le problème de la bande dessinée, c'est qu'on peut pas partir dans tous les sens, parce que le lecteur, lui, il veut suivre l'histoire, il veut pas qu'on l'éjecte à l'extérieur de la narration en faisant l'artiste, quoi. C'est pour ça que j'envie beaucoup des dessins. Quand je vois des dessins d'Autodix, je suis très envieux. La façon on sent qu'il est absolument libre. Par exemple, à la fin de sa vie, Georges Gros a fait des dessins avec un espèce de personnage très bizarre, très allongé. Je suis complètement admiratif, parce qu'en bande dessinée, on peut pas faire ça, quoi. Le public se demanderait ce qu'il est en train de. Enfin, mon public se demanderait, parce que je suis quand même dans des histoires relativement réalistes, ce qu'il est en train de regarder. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien, quoi. On aimerait bien dire, allez, hop, on passe dans un autre monde, mais ça marche pas comme ça.
Cet ancrage très rapide, vous l'avez trouvé quand? Parce que quand on regarde vos premiers livres, notamment les débuts du transpersonnage, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus appliqué. On sent, voilà, il faut bien faire d'une certaine manière. Là, on sent que vous n'avez plus cette question-là. La question ne se pose plus. Il y a effectivement cet ancrage très jeté, très rageur, même par moment au pinceau, comme ça, qui donne des effets de matière extraordinaires. À quel moment ça s'est libéré?
Ben, ça s'est libéré parce que j'avais fait une bande dessinée qui s'appelait Requiem Blanc, alors là, qui était au summum du tenu, on va dire, et du froid, quoi. Et j'en suis tombé presque malade. Je suis sorti de ça, j'avais tellement bloqué mon inconscient, je sais pas quoi. Bref, ça allait pas du tout. Et après, j'ai tout laissé tomber. J'avais complètement laissé tomber la bande dessinée pendant au moins 5 ou 6 ans. Et j'ai fait de la peinture à très haute dose. Et c'est en fait ça qui a libéré mon truc, quoi. Je faisais de la peinture comme ça dans mon coin, et puis je suis revenu. J'avais complètement perdu ce côté besogneux, on peut dire, et beaucoup plus libre. Et puis après, presque trop. Donc après, ça a été, il a fallu que je re... Parce que quand j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Le Tribu, alors là, qui était quasiment proche de l'abstraction, et c'était un peu trop en avance par rapport à son époque, quand on vend 1500 livres, enfin 1500 copies, et que tous vos copains en vendent 20 000, vous dites que vous, vous avez dû faire une erreur de parcours. Et donc, j'ai essayé après d'être un peu plus lisible. Mais j'avais gardé ce côté un peu abstrait, quoi, qui m'a jamais quitté. Et puis après, j'ai fait des livres comme l'Odyssée et puis le Candide de Voltaire, et que j'ai continué à travailler dans ce rapport un peu rapide et libre. Et puis voilà. Et je pense que maintenant, j'arrive à un compromis qui me plaît bien. Je suis assez libre, mais lisible. Voilà.
Vous écoutez France Culture, masterclass avec Jean-Marc Rochette, enregistré au Théâtre de l'Alliance Française, puisqu'on parle des difficultés, d'un moment où ça s'est bloqué. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dessiner? Il y a des dessinateurs qui vont dire, voilà, moi, mon cauchemar sont les décors, d'autres sont les voitures, certains, moi, c'est les chevaux, vous, c'est quoi?
Ah, moi, c'est les voitures. Ah non, mais les voitures, c'est juste un pur cauchemar. Et alors, la voiture, je peux avoir le modèle, par exemple. Je peux avoir la photo de la voiture. Je ne sais pas. Tout s'effondre et je ne sais pas. Et je ne saurais jamais. Un peu mieux quand c'est des vieilles bagnoles, genre les Ami 6. L'Ami 6, quand même, c'est un plaisir pour des dessinateurs, ou la DS, ou des choses comme ça. Ou la 2 chevaux. Mais alors, les voitures de maintenant, là, espèce de suppositoire, ça, je sais pas par quel bout le prendre, le suppositoire.
C'est pour ça qu'il faut faire de la science-fiction ou de la des histoires à pied dans la montagne, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est beaucoup plus simple. Par exemple, les scènes de dialogue, les grandes scènes de dialogue. Comment est-ce que vous vous dépatouillez de ça? Parce que ça peut être d'un ennui total. Enfin, des gens qui se parlent comme ça pendant des pages et des pages. Mais quand on raconte une histoire, parfois, il faut bien en passer par là.
Alors, le dialogue, si on est dans une histoire comme le transpersonnage, où on est dans l'expressionnisme et le comics, on peut y aller avec des portraits un peu forts, avec des visages contrastés, un peu à la M. le Maudit, là. Bon. Mais quand on fait des choses qui sont plus réalistes, comme dans le train, dans le loup, ben là, il faut essayer, d'être très distant, en fait, de se faire plaisir avec pas grand chose, quoi. Avec une ombre de casquette, avec un petit mouvement de caméra. C'est le mouvement de caméra. Pas trop. Enfin, là, par exemple, j'ai 2 scènes dans les bistrots et puis moi, je tiens à ce que la page soit belle aussi. Donc, il faut qu'elle soit belle dans une discussion de bistrot. C'est pas le plus simple, quoi.
Et comment on fait?
Ben, on fait qu'on essaie que ces personnages soient beaux, déjà, que les visages soient beaux, que ça joue juste. Hein. Moi, j'aime bien quand ça joue en dedans, par exemple, que ça grimace pas trop. Là, j'ai la chance, par exemple, sur dans le loup, c'est que je joue, mais j'ai une casquette, par exemple. Et cette casquette, elle fait un peu office du masque de Batman, en fait. On voit jamais les yeux du personnage. Et donc, quand on voit pas les yeux, le lecteur va pouvoir appliquer un peu ce qu'il veut sur le personnage. C'est ce que fait, Vives, par exemple, mais lui, il les enlève carrément, les yeux. Donc, bon. Mais il fait ça, je pense, justement, pour pas donner une indication trop psychologique à son personnage. Et donc, moi, j'étais très content de cette casquette parce que ça me permettait de lui donner un air un peu mystérieux. Et ça faisait un très beau noir au milieu du visage, par exemple. Et donc, ça fait une belle page avec une trouvaille graphique. Simplement une casquette. Je pense que ça aurait été beaucoup moins beau. Sans la casquette, cette scène-là, quoi. Et l'autre personnage, je le mets en contre-champ et il est dans le noir et ça me permet aussi d'avoir un personnage assez bien éclairé. En fait, on se fait plaisir comme un chef-op au cinéma, voilà. Là, on devient chef-op et on se dit, on va éclairer pour que la scène soit bien éclairée. Et puis, dans le cas du loup, je travaille avec Isabelle Merlet, qui est une formidable coloriste, et pareil, elle a trouvé le ton, ce qui fait que la page est belle, parce qu'elle a trouvé un rouge magnifique. Donc, en bande dessinée, on a quand même un gros handicap. Il y a le cinéma qui fait des choses formidables, il y a la littérature, et nous, il faut qu'on fasse plaisir au lecteur au niveau de l'esthétique, quoi. S'il n'a pas ça, s'il n'a pas le plaisir du dessin, le plaisir de la couleur, le plaisir du trait, une espèce de truc gustatif, on va être complètement brisé par Netflix ou par la littérature, quoi. On a un petit créneau et qu'il faut faut pas rater, quoi.
Est-ce qu'il y a des difficultés physiques aussi au métier de dessinateur? Est-ce qu'il y a une maladie physique propre au dessinateur, que ce soit au niveau du poignet, du dos, on est penché sur une table à dessin? Est-ce que le fait d'avoir cette musculature qui vient de la grimpe vous aide, par exemple? Parce que quand on grimpe, on a les doigts, par exemple, extrêmement, extrêmement musclés. Est-ce que c'est un atout ou c'est une difficulté?
Personne pourrait m'arracher mon pinceau, hein, ça, c'est sûr. Hein. Non, mais à un moment, j'avais arrêté de faire de l'alpinisme pendant pas mal d'années et j'ai vraiment eu mal au dos, quoi. Et depuis que je me suis remis à l'alpinisme et que j'ai une barre de traction chez moi, je me suis remusclé le dos et depuis j'ai plus mal. Hein. Donc c'est vrai que le mal de dos, c'est le truc le plus. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait le dessinateur de l'équipe Pelos qui je signais et puis il était juste à côté de moi. Il devait déjà avoir 80, je crois qu'il est là, il est mort à près de 100 ans. Et il m'a donné un très bon conseil. Il est venu me voir. Il m'a dit, petit, si tu continues à dessiner courbé comme ça, là, tu vas pas aller loin. Quoi. Et lui, il est tout droit. Et donc, c'est le dos. La grosse faiblesse du dessinateur, c'est le dos. C'est indéniable.
Dessinateur, faites de l'alpinisme ou en tout cas musclé. Ouais. Vous le dos. Bah, vous parliez de l'équipe et de Pelos. Qu'est-ce que vous avez appris en étant à un moment de votre carrière, vous avez été dessinateur quasiment technique du geste sportif pour l'équipe?
J'ai appris à comprendre que le geste, c'est pas les mains, c'est pas les pieds, c'est un mouvement, quoi. Et quand on travaille à l'équipe, et à l'époque je faisais le plus beau but de la semaine, en page 2, c'est encore l'époque où l'équipe était jaune. Et je savais que j'étais lu par près d'un million de personnes le lundi, et les types avaient vu le but. Donc j'étais jugé. Et pourtant, je voulais être un peu libre. Donc, ça m'a appris à être libre dans un carcan technique. Et j'ai trouvé du plaisir à faire ça. J'ai trouvé du plaisir à trouver de la beauté dans un geste de foot ou de rugby, parce que j'ai fait du rugby, j'ai fait un peu tous les sports. Et j'ai compris qu'on pouvait être dynamique avec peu de traits, quoi. Et ça m'a servi par la suite. D'ailleurs, je pense que, pour revenir au début de la discussion, d'où est venue ma libération du dessin, je me demande si c'est pas venu aussi de l'équipe. Parce qu'à l'époque dans ma époque peintre, on va dire, pour gagner, pour vivre, j'étais dessinateur à l'équipe. C'est ce qui me permettait d'être peintre, d'ailleurs. Et cette liberté de dessin, je l'ai peut-être eue dans ces dessins rapides que je devais faire de Zidane. Parce que je me rappelle avoir fait le premier but de Zidane. À l'époque, c'était pas du tout connu. J'ai dit, tiens, c'est un drôle de nom, ça va marcher. Z, je me rappelle, ils avaient titré Z comme Zidane.
Bien vu, vous avez la vista.
Voilà.
Jean-Marc Rochette, à quoi ça ressemble une journée de travail pour vous? Est-ce que vous appliquez une méthode? Est-ce que vous avez des horaires? Est-ce qu'il y a des étapes, des rituels, des choses qui rythment une journée de travail?
Ah oui. Enfin, c'est-à-dire que j'ai surtout une méthode de travail sur le long terme. C'est-à-dire que
Parce que vous faites souvent des livres à la pagination importante.
Ouais, voilà, donc je fais des 280 pages. Et donc, en fait, je fais le storyboard en entier, je fais le crayonné en entier. Donc, je fais l'ancrage en entier. Donc, je dessine le livre trois fois. Mais une journée, je mets pas mal de temps à m'échauffer, en fait, à rien faire. Ça dure peut-être une heure ou deux où je suis à ma table à dessin et je fais rien. J'ai l'impression que, comme je vous dis, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, que je vais être le plus mauvais dessinateur de la planète. Et puis d'un seul coup, je m'y mets et je rentre dans une forme de... Je dessine par à-coups, en fait. Je dessine pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais très très vite. Puis je m'arrête un quart d'heure, et puis je reviens à nouveau très très vite. Et ainsi de suite. Et jusqu'à faire 4-5 heures dans la journée. Mais en 4-5 heures, j'arrive à faire deux pages, comme ça. Donc je suis quand même quelqu'un qui va très très vite, puisque Le loup, j'ai fait 90 pages en 2 mois. Mais ceci dit, Maurice, par exemple, quand il a fait les Penfluguche, je sais pas quoi, là, les ceux qui ont les O'Hara et les Ho Chi Minh.
Oui, les O'Hara, ils étaient les rivaux de Penfluguche. Voilà. C'est à Lucky Luke.
À Lucky Luke, voilà. Et il avait dit qu'il voulait le faire en 1 mois, quoi. Et donc, il a accepté 45 pages et il l'a fait en moins d'un mois. Et pour moi, c'est son meilleur. Donc je me suis toujours dit que la vitesse était souvent gage de qualité, quoi. Enfin, la preuve, c'est que justement, une espèce de transe longue là dans le dessin, on pense plus à comment ça va être vu ou apprécié. on est complètement immergé dans notre truc, notre histoire, on y croit, on devient loup, on devient berger, on devient arbre, on devient tout ce que vous voulez. Et puis d'un seul coup, on se réveille, 2 mois après, le livre est fait, quoi.
Vous dessinez mieux quand vous êtes à la ville ou quand vous êtes à la montagne ?
Ben, plutôt à la ville, parce que à la montagne, je suis toujours en train d'aller grimper et de sortir et tout ça. Là, je reste et puis je travaille beaucoup. Je travaille plus, mais je pense que j'écris. Enfin non, En fait, ça a pas beaucoup d'importance pour moi. Quand je me mets dans cet état de transe, on va dire, je suis dedans, quoi. Et ça va bien, quoi. Choses se font, quoi.
Vous feriez un parallèle entre votre façon de dessiner et votre façon de grimper ?
Ah ben ça, c'est vrai. Parce que quand je grimpe, c'est pareil. J'attaque une voie, je me dis que je suis plus mauvais grimpeur de la Terre. Et puis une fois que je suis dans les longueurs, je suis une vraie bestiole, quoi. Je grimpe, quoi. Je ne pense plus à chuter ou rien, quoi. Je deviens une espèce d'animal grimpant. Et pareil pour le. Bon, faut pas oublier que le dessin et la grimpe, c'est pratiquement les deux trucs humains les plus vieux. Hein. On dessine depuis il y a 30 000 ans et on grimpe depuis toujours. C'est des choses qu'on a profondément inscrites dans notre ADN. Donc quand on gratte ça, on s'aperçoit qu'on est fait pour grimper et qu'on est fait pour dessiner. C'est des choses qui sont inscrites dans notre cerveau, je pense. Et c'est exactement pareil. Ouais, il y a des longueurs, je me souviens, je sors de la longueur, là, cet été, j'en ai fait une, là, je me suis dit, j'ai 62 ans, j'étais content, je voyais les prises arriver les unes derrière les autres. C'est ce que disait un type qui a ouvert une des grosses voies, là, Downfall, la voie la plus dure au monde, et dit qu'il y a un moment, dans une grande traversée, il a dit que c'est comme une transe et une danse, quoi. Les prises grossissaient, quoi.
Il y a un rapport aussi qu'on pourrait faire, mais je crois que vous l'avez fait, entre un dessinateur qui travaille avec un scénariste et puis un grimpeur qui va emprunter une voie qui a été ouverte par quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait une partition au départ qui avait été écrite par un compositeur et puis vous l'interprétez, vous improvisez aussi, vous pouvez vous en écarter.
Oui, ça c'est ce que dit Bernard Ramy de la différence entre l'ouvreur et celui qui repère une voie. L'ouvreur, ça serait comme... Ça serait comme Mozart, c'est celui qui écrit la partition, et celui qui répète la voix,
un interprète.
Un interprète, voilà. Et il y a des grands interprètes ou des interprètes qui salopent la partition, quoi. Et quand on travaille avec un scénariste, c'est moins net parce que la bande dessinée, c'est la partition écrite par un scénariste, elle est quand même vide encore. Elle est pas, il lui manque l'image, il lui manque le tempo. C'est peut-être moins. On n'est quand même pas des interprètes du scénario, je pense.
J'imagine que c'est différent aussi quand vous travaillez avec un pur scénariste, un écrivain, un Benjamin Legrand, par exemple, et puis quelqu'un qui est aussi dessinateur, et vous l'avez fait souvent. Martin Véron est dessinateur, René Pétillon était dessinateur, comme Jacques Lob, d'ailleurs, à ses débuts. En quoi ça change la collaboration ?
Bah, y a un truc, c'est qu'on s'aperçoit immédiatement quand on travaille avec un dessinateur que c'est un homme d'image. Et donc, il donne des espèces d'espace de liberté au dessinateur, mais contrôlé. Il sait quand même ce qu'il attend. Le pire étant René, quoi, Pétillon. Alors lui, il me faisait des storyboards qui étaient tellement parfaits. Alors là, j'étais un interprète, mais il m'avait laissé la part congrue, quoi. C'est que je lui avais donné quand même la structure narrative, parce que c'est l'histoire de fou. C'était moi, je lui donnais à peu près la trajectoire des fous, et lui, il m'amenait le truc. Je me rappelle avoir. Ceci dit, René, il avait ça pour lui, c'est qu'il se trompait pas, quoi. Et comme c'était un très fin gagman, et que le gagman, c'est une partition très fine, je me rappelle une fois, j'avais fait un 3/4 arrière, et il m'a dit non, c'est pas un 3/4 arrière, là. C'est, je ne sais pas quoi, un profil. Je sais pas, une librairie, c'est beaucoup plus marrant si c'est un profil. Et c'est vrai que c'est plus marrant avec un profil. Mais il y avait René pour voir ça, quoi. C'était un génie du gag, lui.
Est-ce qu'il y a un moment où vous allez avoir une idée ou une envie de livre en réaction au livre que vous avez fait avant? Quand on sort en même temps deux livres très différents comme Transpersonnage, Extinction et Le Loup, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez dessiné en même temps ou l'un après l'autre, mais est-ce qu'il y a le besoin comme ça de changer d'univers, de se reposer, d'aller c'est vraiment l'extrême inverse, l'un et l'autre, même si tous les deux parlent de questions très contemporaines.
Le pire qui m'est arrivé, c'est quand j'avais fait le tribu et que j'avais fait en même temps les Napoléon et Bonaparte. Alors là, c'était l'antidote, quoi. J'ai été chercher l'antidote dans le placard, quoi. C'est vraiment sa base et l'acide base, quoi. Et pour le loup et le transpersonnel, on peut pas dire ça. En fait, le loup, il est vraiment né de cette rencontre avec ce berger. Et en fait, c'est même pas le berger, c'est quand il m'a raconté qu'une vallée était empuantie par des cadavres de moutons et qu'il attendait les vautours. C'est cette image d'un type qui attend les vautours comme une délivrance que j'ai dit, il faut absolument que je fasse cette histoire-là. Donc, elle m'a été un petit peu imposée parce que m'a dit ce berger, quoi.
Et vous m'avez pas répondu, vous avez fait les deux en même temps ou c'était l'un après l'autre ?
J'ai fait le transpersonnage, Extinction, j'ai fini Extinction. Je pensais écrire la suite d'Extinction, enfin en tout cas mettre des bases pour Mats, et puis c'est là que j'ai commencé. Mais je les ai enchaînés à 15 jours, enfin pratiquement j'ai eu aucune différence entre les deux, mais je me suis servi effectivement de tout mon savoir d'Extinction sur le loup. Je pense il y a une espèce de facilité, enfin que je trouve dans le loup, parce que je m'étais tapé 80 pages de comics avant, quoi.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes servi du savoir que vous veniez d'acquérir. Vous êtes quand même dans la profession depuis un certain temps. Vous avez le sentiment qu'on peut progresser, qu'on peut continuer à progresser, que c'est important d'ailleurs, parce que sinon on se repose, comme vous disiez tout à l'heure, sur des clichés ou sur des acquis.
Oui, oui, parce que je vous ai dit, quand j'avais fait le terminus, j'étais vraiment parti sur un expressionnisme très dur. D'ailleurs, le livre a quand même été très bien accepté par les lecteurs. Et je m'étais promis sur le prochain d'être plus accessible, de rentrer sur un. Et donc j'ai appris à faire des personnages plus justes, des attitudes plus justes, de moins me laisser aller dans des trucs expressionnistes. Et ça, je l'avais peu fait en 40 ans de carrière, quoi. Et donc quand j'ai cette espèce de maîtrise que j'avais des portraits et des choses là, quand je suis allé sur le loup où le personnage qui est seul et qui joue, il fallait que sa tête soit crédible, il fallait que ses attitudes soient crédibles. Et je me suis servi donc d'Extinction pour créer l'autre, quoi.
Avec ce savoir que vous avez acquis et qui continue donc à augmenter tout le temps, est-ce que vous posez la question de retoucher des œuvres précédentes? Vous l'avez fait à un moment, par exemple. Vous avez remis en couleur Requiem Blanc, celui dont vous parliez tout à l'heure, pour sa réédition chez Cornelius. Non, c'est pour le Requiem Blanc, c'était...
Requiem Blanc, j'ai retouché.
Voilà. Mais oui, le tribut aussi, vous en avez rajouté.
Ça, c'est autre chose.
Alors, le fait de reprendre une œuvre comme ça, pourquoi est-ce qu'on le fait et pourquoi est-ce que parfois il ne faut pas le faire?
Il faudrait le faire ou pas faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai fait sur Requiem Blanc parce que je le trouvais vraiment trop sec, quoi. C'était vraiment, je ne pouvais pas supporter ça. C'était sec, sec, sec. Et il fallait vraiment que je donne je mette du beurre là-dedans, enfin du chaos. Il fallait que je rajoute quelque chose, quoi. C'était visuel, ça me faisait mal. Donc là, je l'aurais pas réédité si j'avais pas retravaillé. Maintenant, les autres, je retoucherai jamais. Pendant retoucher, je sais pas moi, le transpersonnage 1 de Jacques Lop, ça serait carrément une hérésie, quoi. Et pourtant, il y a des cases qui me font mal aux yeux, quoi. Vraiment mal aux yeux. Il y a des choses, il faut pas oublier, j'avais 25 ans et je n'avais jamais fait de bande dessinée réaliste de ma vie. Jacob, il est venu chercher un type, il faisait Edmond le Cochon, qui était encore un grimpeur et qui faisait que de l'underground, et il lui a dit, tu veux pas devenir Alex Toth? J'ai dit, ouais, c'est une bonne idée, mais les 15 premières pages, c'est abominable. Il y a des cases qui sont, mais... Et pourtant, je retoucherai jamais. Ça fait partie de l'histoire. Et en plus, d'ailleurs, des lecteurs qui ne le voient pas, donc c'est tant mieux, quoi.
Oui, ben c'est ce qui est émouvant d'ailleurs avec cette série, c'est qu'elle vous accompagne, c'est qu'on peut voir presque votre histoire. Est-ce que quand vous voyez ces dessins-là, ces premiers dessins, et puis l'évolution, hormis les défauts, vous vous retrouvez presque le jeune homme que vous étiez?
Ouais, je sais plus qui disait que les cicatrices, c'est bien parce que on sait qu'on n'a pas rêvé sa vie. Et le dessin, c'est un peu pareil, c'est comme des cicatrices de l'esprit, quoi. Ça reste. Alors que la plupart des gens, ils ont des vies formidables, mais ils peuvent penser qu'ils l'ont rêvé, quoi. Tandis que le dessin, c'est des choses qui... Je sais, quand je regarde les planches, où j'étais, je sais même à peu près l'endroit où j'étais quand j'ai dessiné le début du transpersonnel. J'étais avec Ferchit Baroucha, un copain à moi, dans une impasse du 13e, et je me revois là-dedans avec Mandrika qui venait, tout ça. Je revois tout. Mon niveau, et puis je le vois, quoi. Les doutes. Ouais.
Il s'est passé un événement quand même important par rapport au transpersonnage. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Jean-Marc Rochette, c'est cette adaptation au cinéma par Bong Joon-ho, et où tout d'un coup, ce qui était une série mythique pour ceux qui l'avaient découverte au fur et à mesure des années, devenait un phénomène mondial. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Ça a tout changé. C'est rien à voir. Le transpercé, j'étais connu par des gens comme vous, par des gens qui connaissent la bande dessinée, mais il n'est pas du tout connu par le grand public. Et d'un seul coup, une bande dessinée qui allait complètement mourir, elle, c'est sûr qu'elle allait disparaître. Ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est devenu une bande dessinée qui, effectivement, comme vous dites, c'est pas faux de le dire, mondialement connue. Ça a changé aussi ma façon de travailler. J'étais dans une synergie de succès, alors qu'avant j'étais dans une synergie de défaite. Je peux vous assurer qu'on on vit pas la vie de la même manière. Mais par contre, je pense une chose. C'est ce que je disais à Bong Joon-ho. Je crois beaucoup à la théorie de l'univers bloc. Je crois que je suis pas sûr que j'ai dessiné le transpersonnage avant que le film se fasse. Je sais pas si tout n'est pas fait en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, la fameuse théorie de Klein, là. Et donc on fait ça, et puis on fait ça parce que tout est dans l'univers bloc, quoi. Quand j'ai été surpris, mais pas plus que ça finalement. Quand on est allé en Corée avec, je me suis dit c'est bizarre, mais c'est la vie.
Oui, parce que vous êtes allé avant même que le film connaisse le succès qu'il a eu. Vous avez participé au tournage du film. Bong Joon-ho vous a demandé de faire des dessins. Je crois même que vous figurez à un moment dans le film. Comment vous avez vécu ce moment-là, vous qui avez imaginé cet univers tout seul sur votre table de travail, puis qui avez vu tout ça se réaliser sous vos yeux?
J'ai été totalement sidéré quand on est arrivé à Prague. Moi, j'habitais à Berlin. Je suis arrivé à Prague. Je savais pas où j'allais. C'était au studio Barrandov, qui sont les plus grands studios d'Europe, ou pratiquement. Et je suis arrivé, il y avait à peu près 300-400 personnes à l'extérieur, habillées en clochards. Et en fait, c'était des vrais clochards. Bong Joon-ho les avait, et c'était tous les clochards de Prague. C'est très étonnant. Après, on rentre, on voit ce qu'on avait écrit en tout petit. Et puis bon, il y a Bong Joon-ho qui est très respectueux du dessin, parce qu'il voulait être dessinateur de BD. Quand on voit ses dessins, franchement, il a bien fait de devenir un grand cinéaste, parce que c'est ce que disait, je crois, son actrice transpersonnage. Elle disait, c'est un très grand cinéaste, mais c'est quand même un piètre dessinateur. Mais enfin, il a un grand respect pour le dessin. Il a toujours mis la bande dessinée en avant, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a plein de films qui viennent de bande dessinée et qui sont complètement oubliés, quoi. Et là, il m'a mis en avant. Et donc, ça a fait que en France, les gens ont parlé de la bande dessinée. Le livre s'est revendu. Mon éditeur m'a demandé de faire une suite, etc. Et une série qui aurait dû mourir. Là, je pense qu'on va en faire une œuvre de globale qui aura. Enfin, j'aurais travaillé toute ma vie dessus, quoi.
Et est-ce qu'à l'inverse, d'avoir vu le cinéma se faire, ça a pu vous donner l'envie d'en faire? Il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui sont passés derrière la caméra. Vous, ça vous titille?
Moi, j'ai eu le malheur de voir Bong Joon-ho, et j'ai vu...
C'est un peu intimidant.
Donc, si tu vas voir un cinéaste français médiocre, on peut se dire, tiens, je peux être aussi médiocre que lui. Mais dans le cas de Bong Joon-ho, j'ai vite vu sa façon de travailler, que c'était un pur cinéaste, quoi. Et moi, j'ai aucune espèce d'ambition cinématographique. Pas du tout.
Est-ce que comment vous imaginez votre public? Est-ce que vous faites beaucoup de dédicaces, par exemple, ce passage obligé et parfois un peu difficile pour le dessinateur? Enfin, ça dépend. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Est-ce que vous aimez rencontrer votre public? Est-ce que vous imaginez quel est votre public type un peu?
Bah, il y a une époque où il y en avait tellement peu, je les connaissais presque tous, donc.
Par leur prénom?
Par leur prénom. Mais non, il y a eu là maintenant avec Elle Froide, c'est un public qui est très large, donc on a de tout. On a des gens qui ont 75 ans, des jeunes grimpeurs. Enfin, c'est beaucoup sur le milieu de la grimpe, hein, ou sur les gens qui aiment la montagne. Mais là, c'est devenu trop. Il y a trop de monde. Donc non, c'est très éparse en fait. Hein. Il y a beaucoup effectivement de publics qui me suivent depuis des années. C'est des gens de mon âge à peu près, qui ont évolué avec moi. Mais maintenant, grâce à Bong Joon-ho, il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui lisent. Et Non, je ne sais pas trop qui c'est en fait.
Vous avez des échanges avec eux, les gens vous, est-ce que par exemple des jeunes dessinateurs qui viennent, voilà, carton sous le bras, vous demandez des conseils pour les dessins. D'ailleurs, quel conseil vous donneriez à un jeune homme, une jeune femme qui voudrait devenir dessinateur, dessinatrice aujourd'hui?
Je dirais que ça va être dur d'abord et que qu'il ait vraiment quelque chose à raconter, quoi. Parce que la bande dessinée, si on fait ce qu'on nous demande de faire, et moi je l'ai fait, c'est horrible. Il vaut mieux faire n'importe quoi d'autre, quoi. C'est un gâchis, quoi. Mais si on a une histoire, trouver quelque chose qu'on a vraiment, se dire qu'on va passer 6 à 8 mois de sa vie assis à une chaise, il faut vraiment qu'on ait, voire plus, il faut vraiment qu'on ait quelque chose à raconter, quoi. Profond. Si autrement, c'est vain, mais c'est sûrement l'acte, les actes les plus vains qu'ils puissent imaginer. Faire de la bande dessinée sans avoir rien à dire, c'est terrible, quoi.
Et vous avez envie de transmettre quelque chose? Je ne sais pas si vous arrivez d'enseigner. Enfin, est-ce que c'est ce que tout ce que vous avez appris là, ce que vous nous dites, que vous continuez à apprendre, c'est quelque chose que vous voudriez passer?
Ouais, je pourrais, mais il s'avère que pour l'instant, je suis pas. Je dis plutôt ça à des jeunes pros, parce qu'à un moment sur Facebook, je donnais des conseils parce que je voyais qu'ils étaient trop lents, beaucoup trop lents, quoi. Et je me disais, mais pourquoi ils sont aussi lents? Et je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas de technique, en fait. Ils perdaient du temps dans des zones où il ne faut pas en perdre, quoi. Donc ce que je pourrais enseigner, c'est simplement des secrets d'atelier et puis une certaine forme de confiance aussi, comme je vous dis, des secrets d'atelier pour ce qui est le plus basique et au plus haut, avoir quelque chose à dire. Vraiment.
Et lâcher prise. C'est ça que vous avez appris.
Ouais. Lâcher prise, oui. Et puis surtout, avoir quelque chose à raconter, quoi. Il faut. C'est. Quand on a refait, par exemple, le transpersonnage avec Mats, c'était un préquel du transpersonnage. Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose à dire, quoi. Voilà. Autrement, on ne le fait pas, quoi.
C'est un conseil que pourrait donner aux éditeurs aussi, parce que on voit parfois des livres où on se demande pourquoi ces gens qui n'ont rien à dire en font. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Jean-Marc Rochette.
C'était la masterclass de Jean-Marc Rochette avec Antoine Guillot. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.